Europe Matin Weekend.
Bérénice Bourgueil.
Tout ceci vous concerne. Évidemment, cette émission, elle est pour vous, elle est par vous aussi. Hein. Je vous parlais du SMS 739-21, 75 centimes plus le coût du SMS. Vous pouvez, pourquoi pas, poser vos questions à Valérie ou vos questions à Roland Pérez qui nous a rejoint. Bonjour Roland.
Bonjour Bérénice, bonjour Valérie, bonjour à tous.
Bonjour Roland, bonjour à tous, de nouveau.
Valérie, on va parler, parce que c'est bientôt la rentrée, évidemment, on en parle beaucoup, on va parler des logements étudiants. Et alors, attention, attention au piège. Donc la rentrée universitaire devrait se faire dans des conditions normales par rapport à l'année dernière.
Logiquement,
normalement. On n'est que le 29 août. Le budget étudiant a encore augmenté en 2021 de 31 euros par mois. Celui de l'année scolaire, c'est de 247 euros. Alors, le logement s'avère être un des postes qui a augmenté le plus devant l'alimentation. Et puis, il faut rajouter évidemment les masques, le gel. Et malgré la situation sanitaire, il y en a beaucoup qui sont quand même... pas beaucoup. Mais certains n'hésitent pas à abuser, les étudiants qui ont déjà le moral un peu en baisse. Alors comment est-ce qu'on peut repérer l'arnaque, Valérie ?
Lorsqu'on se met à chercher un logement étudiant, c'est le cas en ce moment, je suis en plein dedans. Donc déjà, on se méfie du premier contact.
Ah bon ?
Ça, c'est la première règle. Parce que si la personne demande un paiement, par exemple le montant du premier loyer pour réserver l'appartement, on ne sait jamais, via des coupons à acheter en bureau de tabac comme Transcash ou Amanda, déjà, ça sent l'arnaque. On ne donne jamais d'argent dès le départ.
Mmh.
Autre arnaque qui émerge en ce moment, les arnaqueurs peuvent vous donner un numéro de téléphone surtaxé à l'étranger. Alors vous allez vous présenter devant l'appartement pour le visiter. En général, on visite le premier lieu qu'on va louer, on espère. Eh bien, en fait, ce numéro est taxé à l'étranger. Donc, vous allez appeler l'arnaqueur qui ne se présentera jamais. Et à chaque fois, vous allez payer.
Bon, alors, est-ce que les photos peuvent nous donner un indice ?
Alors, surtout si elles ne correspondent pas au loyer demandé. Là, il y a baleine sous gravier, c'est certain. Hein. Alors, les photos, elles proviennent très souvent de Google Images. Alors, du coup, pour vérifier la véracité, il faut importer l'image sur Google Images et faire une recherche inversée pour identifier l'origine de la photo. Et parfois, l'appartement n'existe carrément même pas. Il faut aussi se renseigner sur le prix de la location dans la zone. Parce que si ce n'est pas le prix affiché dans l'arrondissement que vous cherchez, par exemple, c'est clair, c'est une arnaque.
Là aussi, ça sent l'arnaque. Et par-dessus tout, il faut le dire, on n'envoie jamais de copie de pièces officielles sur Internet.
Jamais, jamais. Et si vous devez le faire parce que vous habitez loin de l'endroit où vous allez louer, c'est souvent le cas quand nos enfants cherchent un logement ailleurs en province et qu'on habite, par exemple, en région parisienne, alors on écrit la mention « pour location » sur les pièces qu'on va envoyer. Et puis, il y a un site qui est très, très, très bien fait qui s'appelle dossierfacile.fr. C'est une plateforme gouvernementale qui est en ligne, qui vérifie vos pièces, mais surtout qui leur appose un filigrane avant de les transmettre aux propriétaires. Et tout cela gratuitement. Donc c'est très, très efficace. Et là aussi, vos pièces officielles, elles sont détruites 3 semaines après que vous ayez communiqué ces pièces donc à la plateforme qui s'appelle dossierfacile.fr.
Alors, il ne faut pas se méfier que des propriétaires parce que, Valérie, certaines agences immobilières n'hésitent pas aussi à duper les moins vigilants. Comment savoir, du coup, à qui se fier ?
C'est simple pour vous répondre. Nous avons avec nous Jean-Marc Taurelion. Vous êtes président de la Fédération nationale de l'immobilier. Merci d'être avec nous, monsieur Taurelion, ce matin.
Merci à vous.
Alors, c'est quoi la pratique commerciale la plus trompeuse pour une agence ? De quoi il faut se méfier avant tout lorsqu'on passe par une agence et qu'on veut louer un logement pour notre enfant étudiant ?
D'abord, je pense quand même qu'une agence procure une certaine garantie, mais avant tout, ce qui est important, c'est qu'une agence, elle se doit d'être, en parfaite règle avec la loi. Elle doit justifier d'une carte professionnelle et d'une garantie financière, et elle doit naturellement être présente lors de la visite. J'ajoute qu'une visite, c'est indispensable pour s'assurer de la réalité du bien. Et cette agence, elle se doit également non discriminante. Elle doit ne pas demander des pièces avant les visites, contrairement à certaines pratiques que je connais. Et elle doit également être parfaitement présente sur toute la ligne de location, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin avec l'état des lieux et la remise des clés.
Et
une agence, elle est responsable après la location aussi. Elle reste l'interlocuteur du locataire.
Et on entend souvent parler des marchands de listes.
Il y en a de moins en moins des marchands de listes parce que Internet les a tués. C'était une pratique courante il y a 10 ou 15 ans. Internet les a tués. Aujourd'hui, toutes les locations sont globalement disponibles sur les principaux sites que l'on connaît très bien. Mais à côté de ça, il y a d'autres aspects dont il faut, sur lesquels il faut être très vigilant. Le dépôt de garantie, il est limité à un mois pour une location vide et à deux mois pour le meublé. Et là encore, on a effectivement quelques pratiques où on s'affranchit de ces règles-là. Vous avez eu raison de souligner qu'on ne paye pas, on n'envoie pas son loyer à l'avance, quoi que ce soit. Il n'y a pas de frais à engager avant d'avoir conclu le bail. Attention aux charges locatives. Effectivement, ces charges, elles sont parfois au forfait, elles doivent être proportionnelles. Sinon, elles doivent être régularisées. Donc, voilà. Et il y a la colocation également, qui est très développée chez les étudiants. Et je rappelle qu'il n'y a plus de solidarité entre les locataires, lorsque on part, on quitte la location. C'était une nouveauté de la loi Elan.
Et alors, on ne fait pas de chèque de réservation, parce qu'en général, le bailleur ne doit pas demander d'argent, mais souvent, dans les faits, on envoie un petit chèque de réservation. Est-ce qu'on donne son RIB ? Est-ce qu'on ne le donne pas ?
Le chèque de réservation est interdit. Et d'ailleurs, certaines agences s'en étaient affranchies et se sont fait taper sur les doigts. Le chèque de réservation est interdit.
Et est-ce qu'il existe
son RIB est... oui.
Allez-y, terminez, pardon.
Le RIB, on ne l'envoie effectivement que dans la constitution du dossier, mais une fois qu'on a signé le bail, encore une fois, on n'a pas à envoyer son RIB avant d'avoir conclu son contrat de location.
Merci beaucoup Jean-Marc Torollion d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Et on a bien noté, hein, pas de chèque de réservation, c'est interdit. Roland, il y a aussi souvent litige sur le dépôt de garantie. Alors, dans ce cas, comment est-ce qu'on procède ? Est-ce qu'une conciliation peut suffire ?
Alors, il faut d'abord comprendre que le dépôt de garantie, c'est pas juste une avance de loyer, c'est une somme qui est laissée entre les mains du propriétaire pour garantir le fait que les lieux vont rester conformes. C'est-à-dire qu'on ne va pas détériorer les lieux, parce qu'on pense souvent, d'ailleurs, à tort, qu'on ne va pas payer les derniers mois, puisqu'on l'a laissé un mois ou deux mois, comme le disait le président de la FNAE. S'il s'agit d'un logement meublé. Donc ce dépôt de garantie, si les locaux sont en bon état ou en état d'usure normale en fonction de la durée d'occupation de ces locaux, de cet appartement ou de cette chambre, eh bien il doit être restitué dans les 30 jours. Donc s'il n'est pas restitué dans les 30 jours, il va produire des intérêts et vous pourrez à ce moment-là saisir la justice. Mais là encore, on en parlait hier, pour tous ces petits litiges, Bérénice, évidemment, on se dit on va prendre un avocat, on va saisir la justice, on va perdre un temps. C'est un loyer qui est généralement très modeste. Donc, comment faire ? Vous avez cette plateforme dont je parlais hier, litige.fr, qui franchement
peut nous aider aussi.
Oui, qui peut vous aider, qui peut envoyer la lettre. Parce qu'ils comptent là-dessus, les propriétaires ou d'autres organismes, on compte sur le fait que s'agissant d'un litige modeste, eh bien, la personne concerné n'ira pas forcément rester en justice.
Est-ce que ça traîne en longueur avec cette plateforme ou pas ? Enfin, combien de temps pour se faire rembourser ?
La plateforme fait immédiatement la lettre recommandée et dans la foulée, si ça ne réagit pas, saisit le tribunal judiciaire pour vous.
Allez, restez avec nous tous les deux. On va parler tout à fait autre chose.
Oui.
De belles plantes,
oui,
Roland.
Vous
restez
voir.
Avec nous dans un instant sur Europe 1.
Europe Matin Weekend. Bérénice Bourgueil.
Ça vous concerne avec Valérie Darmon et Roland Pérez. 7h19, Roland, on n'y pense jamais, mais les plantes que l'on achète parfois chez notre fleuriste préféré peuvent s'avérer nuisibles à notre santé. Et c'est pour ça que la loi vient d'astreindre les vendeurs à de nouvelles obligations. Donc ça mérite vraiment, Roland, des explications. C'est quoi ces histoires de plantes ?
C'est un branle-bas de combat chez nos fleuristes depuis le 1er juillet. Les fleuristes toutes les grandes surfaces d'ailleurs qui vendent des végétaux ont une obligation d'information sur les risques éventuels que certaines fleurs ou plantes peuvent avoir sur notre santé. Mmh. Il s'agit évidemment d'éviter des intoxications et des allergies respiratoires ou même des réactions cutanées. Et d'ailleurs, sachez que le centre antipoison, moi j'étais extrêmement surpris, doit gérer entre 8000 et 9000 cas d'intoxication dont près de 1000 sont particulièrement graves.
Mais c'est parce qu'on les mange ou pas...
Les animaux peuvent les manger, les enfants s'en savent. Ouais. On peut se frotter sur ces plantes sans savoir qu'on peut avoir aussi des réactions cutanées ou des allergies. Donc tout cela fait qu'on est un peu perdu et le centre antipoison est automatiquement contacté.
Et on sait, Roland, quelles sont les espèces concernées et surtout combien il y en a et pourquoi elles ne sont pas tout simplement interdites à la vente ?
Alors il y a des fleurs assez connues, hein, comme les colchiques ou les lauriers roses. Alors, je sais pas, moi je ne les achète pas. Voilà, on fait la chanson. C'est pour vous faire chanter que j'ai fait ça ce matin. Mais je vais arrêter là l'inventaire.
Même si J'ai pas une chanson à chaque fois. Non plus.
Je vais arrêter là l'inventaire car je ne suis que juriste et pas fleuriste. Et donc, on va poser la question ensemble à Farel Legendre, qui est président de la Fédération des Artivans Fleuristes. Bonjour Farel.
Bonjour Roland.
Merci.
Bonjour.
Merci d'être
merci
avec nous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Je fais comme Valérie Darmon, je dis merci et tout. Alors, je suppose que vous connaissez, Farel, les espèces qui posent problème. Moi, j'ai donné le nom là, des colchiques et des lauriers roses. Elle va chanter encore, hein, attention. Est-ce que quelles sont les autres plantes les plus connues du public, Farel?
Alors, on va retrouver un grand classique, qui est le Taxus baccata. On parle surtout beaucoup de plantes. Il y a beaucoup de plantes qui sont toxiques. Et grosso modo, vous l'avez résumé au départ, il y a vraiment trois cas clairs. L'ingestion, les pollens. Et là, pour le pollen, les plus connus sur les plantes à pollen, on va avoir certains platanes ou on va avoir certains noisetiers. Et ensuite, tout ce qui va être contact, les soucis liés au contact, c'est-à-dire quand on se frotte à la plante ou autre, qui peuvent présenter des dangers. Là, il y en a assez peu. Alors, au total, il y a un petit peu moins d'une soixantaine de plantes qui peuvent présenter ce
type de risque. Oui, c'est ça, 58, dit la loi. 58 plantes, dit la loi, oui. Mais moi, j'ai une question, Farel. Pourquoi les fleuristes continuent-ils à les proposer à la vente si elles peuvent s'avérer, en d'autres termes, dangereuses?
Alors, pour le coup, je fais appel aux les professionnels et au niveau du savoir-faire des professionnels, ça fait partie déjà des plantes où, grosso modo, on avait... C'est des plantes où on a très peu de demandes, pour le coup, et où on est vraiment sur des productions qui sont relativement faibles. De manière assez simple, je prends un exemple, on a des plantes qui sont passées de mode, type le Diffenbachia, où, pour le coup, on a arrêté de les proposer, et il y a déjà un certain nombre d'années, c'est pareil au niveau de tout ce qui va être plantes type pollen, il y a des choses qu'on ne propose plus aujourd'hui, qu'on ne propose plus déjà.
Mais pourquoi, excuse-moi d'intervenir, mais oui, pourquoi on vend encore des ciseaux, ça peut être très dangereux une paire de ciseaux, pourquoi il ne suffirait pas tout simplement de dire, quand on vend ces plantes-là, attention allergène, même dans les produits qu'on mange, attention allergène.
On y vient, vous avez raison Bérénice, on y vient.
Pour le coup, on a une obligation d'information, voilà. C'est-à-dire d'informer le client. Pour
c'est
le
ce coup, que dit la loi.
Je prends typiquement un laurier rose, c'est quand même une espèce endémique au climat, tout ce qui va être climat méditerranéen. On ne va pas non plus faire disparaître du patrimoine, botanique, certaines espèces pour des coupes d'anchoisité. Je pense qu'il faut faire appel au bon sens au niveau. On est sur des cas assez particuliers. Et c'est des cas, j'entendais ce que vous m'indiquiez, c'est-à-dire 9000 cas d'appel au centre antipoison. Pour le coup, sauf erreur de ma part, il faut quand même rester très très modéré. Ça génère aux alentours entre 60 cas graves annuellement. Il faut quand même faire appel au bon sens. Le bon sens, on n'ingère pas pour le coup de manière naturelle des plantes. C'est souvent des risques. C'est des risques.
Et Farel, justement, comment vous informez les clients? Le disait Bérénice, vous avez une obligation, vous avez, fleuriste aujourd'hui et distributeur de végétaux, vous avez une obligation d'information. Vous le faites comment? Sur des étiquettes? Vous le faites oralement? Sur des affichages?
Alors, sur l'affichage, il y a un affichage qui est générique. Il y a un affichage qui est générique, je dirais, en boutique par rapport à ça, en disant que certaines plantes peuvent présenter effectivement de la toxicité. Et quand présentement on ne peut avoir ce type de plante, on a une obligation d'information, alors à la fois par un chromo qui va indiquer que effectivement les choses peuvent présenter des risques, et pour le coup, les conseils et l'expertise du professionnel est là. Et en tant que professionnel, notre expertise et notre savoir-faire est aussi d'informer le client.
Et voilà, les fleuristes deviennent pharmaciens aussi. Merci beaucoup, Farel Legendre, d'être intervenu ce matin sur l'antenne d'Europe 1.
Merci à vous. Un dernier conseil pour la route, Roland. J'aime bien le dernier conseil pour la route.
Alors, vous savez que le ministère de la Santé a mis en ligne un site internet qui présente toutes les plantes à risque, justement, leur effet sur la santé et quoi faire pour se protéger. Il s'agit de plantes-du-milieu-risque.info, plantes-du-milieu-risque.info.
Non mais c'est dingue ce que vous racontez. Vous avez des plantes chez vous aussi, Valérie? Vous achetez des fleurs
Moi, j'en achète et de toute façon, je connaissais l'information avec le laurier notamment, donc je fais attention à chaque fois que j'en achète. J'achète surtout des plantes dépolluantes.
Mais surtout que si on offre des plantes sans savoir, parce qu'on peut les acheter pour nous, bon ok, mais on peut aussi les offrir et sans savoir qu'elles peuvent être dangereuses pour les animaux.
Donc il faut regarder, mais
on ne regarde jamais, on vous dit les conseils pour l'arrosage, tout ça, mais ça c'est très bien, mais il y a aussi sur ces étiquettes, il y a aussi tous les risques allergènes sur le fait que les animaux ne peuvent pas les ingérer si on les plante, les enfants, il faut que ce soit hors portée des enfants.
Moi je fais attention à mon chat, comme je faisais attention à ma fille quand elle était petite.
Il faut lire les étiquettes.
C'est ça. Quand on va chez quelqu'un, si on va venir un bouquet de fleurs, il faut lui demander au préalable si cette personne n'est pas allergique.
Moi qui voulais vous offrir des cols chic pour vous chantier, des vernis, voilà, j'étais sûr. C'est le mot qu'il faut dire ce matin, cols chic.
Bah oui, mais je le fais en canon. Non, vous m'offrez des chocolats.
Bon, d'accord, je le saurai.
Merci beaucoup à tous. Vous pouvez rester. Vous pouvez rester dans quelques instants. On va s'informer avant cela.